Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Herbe d'Ivoire et c'est l'heure de l'interview. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Seb. Bonjour.
Salut Yves. Salut Seb, tout le monde.
Tu es ici donc pour nous annoncer l'accès et peut-être la création d'une annexe de la CNT dans le Diwa, et dont toi tu es déjà représentant et militant CNT dans le Diwa également. Pour toi, est-ce que c'est une bonne nouvelle d'avoir un pied-à-terre de la CNT dans le Diwa?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour le moment, dans la Drôme, il y a quatre syndicats CNT qui fonctionnent. J'en dirai un petit mot tout à l'heure sur ce que ça veut dire pour ces syndicats que d'être labellisés auprès de la Confédération Nationale du Travail. Il y a Naterpro, il y a Culture Spectacle, Santé Sociale et Syndicat des Travailleurs de l'Éducation. Donc ils ont chacun leur champ de syndicalisation. Moi, ça fait plusieurs années que je milite au STP 26, qui est le Syndicat des Travailleurs et Précaires de la Drôme. Donc c'est l'Interpro. De la CNT dans la Drôme. Et donc, avec Fabienne, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait dans le Diwa non seulement un potentiel de syndicalisation militante, mais aussi des besoins, et qu'en fait, la CNT ne pouvait pas y répondre parce que le Diwa, c'est quand même un territoire qui fonctionne assez fortement en vase clos. Et que les personnes, que ce soit pour les manifestations ou pour l'action syndicale, en fait, ne se déplacent pas beaucoup dans le bas de la vallée, et a fortiori jusqu'à Valence ou Montélimar. Et donc on s'est dit, c'est dommage d'avoir là, dans un bout de pays comme ça, comme le Diwa, où il y a des valeurs d'autonomie qui font partie du langage de tout le monde, des valeurs de solidarité, des formes de vie communautaire où tout le monde se connaît, où il y a encore une fusion un peu entre le lieu de travail et le lieu de vie, il nous a semblé un bon terrain pour tenter la plantation d'un syndicat. Donc, on part sur une forme d'interpro. Son nom, c'est l'ETPIX, CCD26, alors c'est-à-dire le syndicat des employés, travailleurs, précaires, des industries, du commerce et des services de la communauté de communes du Diwa. Et 26, pour rappeler à tout le monde que c'est dans la Drôme, vis-à-vis de l'extérieur, évidemment. Pour créer ce syndicat, il a d'abord fallu que mon syndicat d'origine, le STP 26, accepte de retrancher de son champ de syndicalisation, qui était la Drôme, la partie correspondant au Diwa. Donc ça, c'était une première étape de la création, c'était de s'assurer que le STP 26 lâcherait bien, en quelque sorte, ce champ de syndicalisation. Parce qu'au sein d'une même confédération, les champs de syndicalisation ne peuvent pas se recouvrir. C'est vrai chez nous, c'est vrai à la CGT ou dans n'importe quelle autre conf. Et donc voilà, ça c'était un peu les motivations et la première étape de création. Ben après, il y a eu plat, il faut une domiciliation, il faut une assurance, etc. Donc domiciliation, on est domicilié à l'espace social et culturel du Diwa, 6 place de l'Évêché, donc c'est là qu'on peut nous joindre par écrit. On a notre assurance, c'est bon, on a commencé le processus de labellisation au sein de la Confédération. Donc la première étape, c'était d'obtenir de l'Union régionale des syndicats CNT d'Auvergne-Rhône-Alpes l'accord à la création d'un nouveau syndicat dans leur aire d'implantation. Donc ça, c'est fait. L'Union régionale a donné son accord. Le STP 26 a modifié son champ syndical. Et donc maintenant, le dossier est parti avec les statuts de l'EPIX, avec les statuts modifiés du STP, etc. Tout ça, c'est parti à la Confédération pour que le bureau confédéral valide cette labellisation et qui devra encore être elle-même confirmée en congrès, enfin plus précisément en comité confédéral national d'ici le mois de juin.
Voilà. On peut peut-être rappeler aux auditeurs ce qu'est la Confédération nationale du travail, un syndicat donc né en 1946.
Oui.
Alors pourquoi cette date? Quel a été le contexte qui a permis cette création?
Ouais, ce qui s'est passé, c'est que alors ceux qui s'intéressent à l'histoire du mouvement social connaissent probablement la CNT espagnole, Confédération Nationale del Trabajo, qui est né dans les années 20 en Espagne et qui s'est fait connaître d'abord par son énorme travail de fond de syndicalisation dans un contexte super dur où en fait il y avait énormément d'ouvriers agricoles qui étaient en fait quasiment à l'état de serre dans des grandes exploitations agricoles. Hein. C'est un modèle, l'Espagne des années 20, c'est encore un modèle quasi féodal quoi, hein, au niveau des rapports de production, qui s'est distingué quand ils ont institué la République et qui ensuite ont dû rentrer en guerre contre les troupes de Franco, ce qui donne lieu à ce qu'on appelle la guerre d'Espagne. Mais que nous, on préfère appeler la révolution espagnole, parce qu'en fait, c'est sur base d'un processus révolutionnaire que cette tension s'est faite entre les tenants, les fascistes espagnols, hein, les phalangistes et autres, Franco, et la partie républicaine, dans le sens république sociale, dont les grands représentants étaient la CNT, mais il y avait aussi beaucoup d'autres partis, évidemment, par exemple le PUM, Parti Ouvrier Unifié Marxiste, il y avait plusieurs composantes hein, révolutionnaires. Et quand Franco a gagné la guerre en 36, ouais, la guerre qui a commencé en 36, et puis l'exil forcé des républicains espagnols a commencé vraiment massivement en 39, parce qu'ils étaient persécutés, qu'ils avaient un peu tout perdu, ils sont venus en France. Une partie d'entre eux, ils étaient peut-être 300 000 à avoir passé la frontière des Pyrénées. Une partie d'entre eux s'est installée à Paris. Une partie de ceux-là ont décidé de créer une Confédération nationale du travail française à Paris, évidemment en comptant sur leurs contacts de collègues espagnols qui s'étaient exilés dans d'autres villes de France. Avec quand même quelque chose d'un peu curieux, c'est qu'en fait, pour eux, c'était une organisation provisoire. Et en fait, le provisoire a duré et ils espéraient rentrer en Espagne. Et en fait, la plupart d'entre eux ne l'ont pas fait et sont restés en France. Et il y a encore aujourd'hui à la CNT des enfants qui aujourd'hui sont des septuagénaires, mais des enfants de ces fondateurs, quoi, qui ont fait leurs parents ont fondé la CNT et eux en font encore partie.
Qu'est-ce qui démarquait dès lors la CNT des autres syndicats étant celui le plus important, la CGT, je pense, ouais. À l'époque.
L'histoire du syndicalisme en France. Elle s'est faite avec la CGT, d'abord des syndicats épars, qui n'avaient pas vraiment de nom, qui n'étaient pas regroupés spécialement en confédération, parfois en fédération. Et il a fini par y avoir une unité de ces syndicats, de la plupart d'entre eux en tout cas, au sein de la Confédération Générale du Travail, la CGT. Cette unification, elle s'est faite du 19e siècle. La CGT s'est créée sur des bases qu'on appelle du syndicalisme révolutionnaire. Le syndicalisme révolutionnaire, c'est à peu près un synonyme d'anarcho-syndicalisme qu'on emploie partout dans le monde. Anarcho-syndicalisme, par exemple, les International Workers of the World aux États-Unis se présentent comme des anarcho-syndicalistes. Il n'y a qu'en France où on utilise les deux termes, et préférentiellement syndicalisme révolutionnaire. C'est dû probablement à la période de la propagande par le fait et des attentats anarchistes, suivi de ce qu'on appelait les lois scélérates, ce qui fait qu'en fait l'étiquette anarchiste elle n'était plus portable sans être passible de peine de prison. Quoi. C'est probablement pour ça qu'en France, on a préféré syndicalisme révolutionnaire. Donc, mais la CGT, c'était ça. Et aussi la charte d'Amiens, qui est une déclaration du 9e congrès de la CGT à Amiens en 1906, où il y a une motion qui est portée par Émile Pouget, qui est, alors ça ne dit peut-être pas grand-chose, mais si je dis qu'il a fondé le Père Pénard, ça peut évoquer quelque chose à plusieurs auditeurs. C'est un journal anarchiste, donc Émile Pouget est un anarchiste, qui est en fait rentré dans le syndicalisme révolutionnaire et qui a, avec Griffuel, écrit cette motion qui a donné lieu à la déclaration de la charte d'Amiens. En fait, le principe, c'est A, la reconnaissance de la lutte des classes comme moteur de l'action ouvrière, le refus de s'affilier à quelconque parti, y compris même de copiner avec des partis. Troisièmement, le principe de la grève générale expropriatrice, c'est-à-dire la grève générale qui permet aux ouvriers, ouvrières, de reprendre le contrôle des outils de production. Donc ça, c'est l'histoire en 1906. Tous les syndicats aujourd'hui qui agissent en France se réclament plus ou moins d'une manière ou d'une autre de la charte d'Amiens de 1906. Mais pratiquement aucun, en fait, ne l'applique. Même la CGT, la proximité qu'elle a entretenue avec le Parti communiste dans les années, 30 à 70, bah, en fait, quelque part, c'était une entorse à la charte d'Amiens, quoi. Mais voilà, c'était... ça commençait à être de l'histoire. Et, tandis que nous, on est resté sur cette base. On fait pas de politique partisane à la CNT. On ne soutient pas de parti, que ce soit le PS, le PC, le NPA, les écolos. Non, on ne soutient pas de parti. On a une base d'autogestion. C'est-à-dire qu'à par exemple, à la différence de la CGT, on fonctionne toujours par mandat. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, on a un secrétaire confédéral, hein, comme à la CGT ou à la CFDT, qui est d'ailleurs maintenant une secrétaire confédérale, qui est la responsable légale de la confédération, de même qu'on a deux trésoriers, enfin qui travaillent ensemble, mais c'est la trésorerie, dont les noms sont déposés en bureau, qui sont des représentants légaux de la confédération. Mais dans les statuts, ces personnes-là n'ont aucun pouvoir. Par exemple, le trésorier ou la trésorière ou les trésoriers exercent leur mandat sous le contrôle du bureau confédéral. Et toute la confédération, le bureau confédéral, le secrétariat confédéral, etc., est composé de mandatés qui sont envoyés par leur syndicat, approuvés par l'ensemble des syndicats en congrès, et qui vont faire leur boulot d'administration au jour le jour de la CNT. Parce qu'il y a des tas de trucs à faire, hein, maintenir le site internet, envoyer les adresses mail, enfin, c'est de l'administration pure. Ces gens-là sont contrôlés par leur syndicat. C'est-à-dire, en fait, le pouvoir appartient toujours au syndicat, à la CNT. Contrairement à la CGT, qui a quasiment un bureau politique qui va décider d'une ligne, tout le monde le voit, hein, l'a vu. Même si sur le papier, les syndicats CGT font la politique de la CGT, on se rend compte qu'en fait, dans les faits, non. Tandis que chez nous, c'est toujours le syndicat qui est souverain à travers son assemblée générale. Donc on n'a que des mandats, on n'a pas de poste, personne n'est payé, il n'y a pas de financement public. Donc tout ça aussi, ça nous distingue des autres syndicats. On ne rentre pas dans les organes de représentation et de gestion paritaire. Et il y a quand même une exception. Récemment, on a un syndicat en production du film d'animation qui, au terme des élections professionnelles, est devenu représentatif dans sa branche. Le congrès, le dernier congrès, a validé ça, donc lui a permis de faire cette expérience. Donc on voit bien que ce n'est pas coercitif, parce que normalement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Mais on a la Confédération, c'est-à-dire l'ensemble des syndicats, a accordé à ce syndicat de faire son expérience de représentativité. Par contre, à la demande du syndicat, et de toute façon le vote du Congrès aurait été dans ce sens-là, de toute façon, il y a un refus des financements. C'est-à-dire que ce syndicat de production du film d'animation refuse 40 000 euros par an de subvention pour sa gestion paritaire. C'est énorme en fait. Mais en fait, ça, on n'en veut pas, parce qu'en fait, là, on perd complètement la dépendance. En plus, une partie de cet argent via des cotisations qu'on appelle cotisations patronales, donc en fait du super brut. Et nous, on estime que ces cotisations, elles doivent aller aux ouvriers, ouvrières, aux travailleurs, et sûrement pas à des organes de co-gestion en cheville avec l'État, l'administration étatique, pour gérer la misère, quoi.
Il y a un maître mot chez vous, c'est l'émancipation des travailleurs. Ça, c'est une œuvre que vous destinez à celle des travailleurs par eux-mêmes.
Oui.
Alors, fait, qu'est-ce que signifie dans votre optique le mot émancipation, et comment peut-on la traduire dans ce que vous proposez ?
Je dirais qu'il y a au moins deux aspects. Le premier aspect, c'est la maîtrise de la production. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ne pas être le donné d'ordre. C'est-à-dire que c'est les travailleurs ensemble qui décident de produire ceci ou cela dans des systèmes fédératifs qui peuvent être assez complexes, mais qui peuvent fonctionner tout aussi bien qu'une administration centralisée.
Et qui répondent à des impératifs...
Et qui répondent à des besoins. Voilà. Essentiellement à des besoins. Non pas à des impératifs économiques, mais à des besoins. On a besoin de se nourrir, on a besoin de se loger, on a besoin de s'habiller. Voilà. C'est la production doit répondre à ses besoins et ne pas être au service de la, l'infinie rémunération du capital à des taux qui nous coûtent très très cher. Donc ça, c'est un peu le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est en fait s'appliquer dans la vie du syndicat, c'est aussi apprendre à se former à l'administration des outils dont on a besoin pour atteindre cette émancipation. C'est-à-dire qu'en fait, ce que la CNT propose, c'est des outils de gestion collective, des méthodes de gestion collective. Donc, j'ai parlé du mandat tout à l'heure. Ben, le mandat, plutôt que le poste rétribué ad vitam, le mandat gratuit, en fait, c'est une manière de gérer la CONF, le syndicat, les unions régionales, enfin toutes les instances organisationnelles de la CONF, sans se retrouver au centre du jeu. On est toujours au service du syndicat. Et le syndicat, c'est d'un côté, c'est une sorte d'abstraction comme ça, mais en fait, non, concrètement, c'est l'assemblée, le syndicat, c'est l'assemblée générale des travailleurs et travailleuses qui sont dans ce syndicat. Et c'est eux qui, en se réunissant toutes les deux semaines, trois semaines, un mois, enfin, ils font comme ils veulent. Il y a rien dans les statuts qui dit qu'il faut se réunir tous les X temps. C'est le syndicat qui décide. Et donc, cette assemblée générale, ben, elle va décider des actions à mener au niveau local, des campagnes nationales qu'il faut rejoindre, des revendications qu'il faut porter dans telle ou telle entreprise ou d'une manière générale sur un territoire, qui va, décider de mandater, de proposer un mandatement l'un de ses adhérents ou l'une de ses adhérentes. C'est le syndicat qui décide. Et la Confédération n'a mais strictement rien à lui dire. Pour autant qu'il respecte quelques principes qui sont assez simples. Hein. C'est-à-dire on ne syndique pas d'employeurs. Bon, ça c'est assez logique. On n'est pas syndicat patronal, donc on syndique des gens qui sont en situation de subordination au travail. On ne syndique pas de forces répressives de l'État, donc on ne syndique pas de policiers. Et on ne syndique pas dans des zones où il existe un mouvement indépendantiste reconnu. Alors là, la définition, elle est vachement floue. Il est probable que dans les années à venir, on change de position là-dessus. On commence à entendre de ci, de là, mais au fond, c'est quoi un mouvement indépendantiste ? Mais toujours est-il que pour le moment, par exemple, il n'y a pas de syndicat CNT en Corse, par exemple, parce qu'il y a un mouvement indépendantiste. Donc si des travailleurs corses...
Tout comme en Bretagne ?
Non. La Bretagne, par contre, on syndique. Voilà. Et c'est devant ces espèces de contradictions et de définitions qui ne vont pas, en fait, qui ne collent pas à la pratique, qu'en fait, il va y avoir probablement dans les années qui viennent un changement à ce niveau-là. Mais pour le moment, en Corse, on renvoie les travailleurs ou travailleuses qui contacteraient la CNT vers des organisations syndicales, d'autres confédérations.
Tu as affirmé donc que l'implantation du CNT dans le Diwa était due à une demande, certainement. Quelle est la demande et quelles sont les personnes qui peuvent prétendre à vouloir s'inscrire ou se syndiquer ?
Moi, je dirais tout travailleur, toute travailleuse a vraiment intérêt à rejoindre. Moi, je ne fais pas de la RTAP pour mon orga. On ne vend pas des cartes. Hein. Ça, nous, on fonctionne avec des militants. Donc, à rejoindre une organisation syndicale. Voilà. Oui, syndiquez-vous, regroupez-vous, décelez les intérêts communs que vous avez, comprenez que les intérêts du patron, de l'employeur, sont tout autres que les vôtres. Vous, c'est de bouffer, lui, c'est de maximaliser son profit. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la variable d'ajustement là-dedans, la plupart du temps, c'est vous. Donc, ça peut passer par des méthodes de management absolument détestables, qui mettent une pression dingue sur les travailleurs, les travailleuses. Ça peut être des salaires tirés vers le bas. Ça peut être... On voit bien, aujourd'hui, il y a des réformes énormes qui sont votées. Hein. Je pense notamment à la loi de plein emploi. Ben, je peux vous dire que maintenant que, de par la loi, tous les chômeurs et je ne sais pas si vous avez été attentif là-dessus, mais les allocations spécifiques de solidarité vont disparaître. C'est-à-dire que les 300 000 personnes qui sont à l'ASS pour à peu près 560 euros vont tomber au RSA pour à peu près 450 euros, enfin, suivant leur situation familiale, mais en gros, pour une personne isolée, c'est ça que ça va faire. Que toutes ces personnes-là, plus toutes les personnes qui relèvent du handicap à un titre ou à un autre, c'est-à-dire travailleurs handicapés, titulaires de l'AAH, personnes ayant été durant sa scolarité accompagnées en tant qu'élèves ou étudiants handicapés, vont tous être redevables d'un minimum, parce qu'il n'y a rien qui dit que ça ne peut pas être beaucoup plus, de 15 heures par mois à faire une activité. Voilà. Alors, ça peut être de la formation, mais il n'y a rien qui interdit que ce soit du travail productif. Et cette loi de plein emploi, elle a été expérimentée dans 18 départements. Et dans ces départements, on constate qu'il y a des entreprises qu'on appelle maintenant des entreprises d'accompagnement, EA, qui ont attiré à elles ce qui était plus ou moins des volontaires dans ces départements d'expérimentation, pour, par exemple, faire du travail de jardinier sur les ronds-points, pour le prix de leur allocation, à 15 heures par semaine. Mais ça, c'est un boulot. Ça, c'est un travail. Ça mérite un salaire. Eh bien, rien n'empêche dans la loi ces fameuses 15 heures d'être du productif. C'est-à-dire qu'en fait, cet énorme volant, moi que j'appelle l'armée de réserve du capitalisme, de plusieurs millions de personnes, hein, donc grosso modo 3 millions de chômeurs, 1,5 million de RSA, probablement 1,5 million de personnes relevant du handicap, hein, ça fait quand même un paquet de gens, vont s'infiltrer contre leur gré dans des mécanismes de production. Et en fait, je dis à ceux qui ont un emploi salarié pour le moment, mobilisez-vous, parce que vous serez à terme remplacé par ce volant gratuit, enfin partiellement remplacé par ce volant gratuit, et de toute façon ça tirera les salaires vers le bas, obligé de travailler pour percevoir leur maigre allocation, que ce soit la AAH ou le RSA. Donc voilà, ça c'est le genre de truc, s'il n'y a pas de mobilisation commune là-dessus, c'est difficile. Eh bien, ce qu'un syndicat permet de faire, c'est d'organiser la mobilisation, parce qu'en fait ça permet aux gens de se rencontrer, de définir des objectifs, de définir des méthodes d'action et des sujets.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5
101.7
FM.
Votre mission est peut-être aussi d'anticiper ce qui pourrait advenir, ou alors c'est uniquement en réaction à ce qui est décrété par un gouvernement parfois. Je voulais aussi rajouter un petit point, c'est sur le SMIG,
oui.
puisque le gouvernement semble réfléchir à une désmicardisation des salariés.
Ça, avec un néologisme pareil, on peut s'attendre à tout, la désmicardisation, mais ça c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, quelque part, s'il faut prendre désmicardiser, j'ai même du mal à le dire, comme étant le fait que les personnes ne relèvent plus du SMIC, ou qu'il y ait moins de personnes qui travaillent au SMIC, ben en fait, Gros appelle ça augmenter les salaires. Or, il ne l'a pas fait. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Donc, je m'inquiète un peu de savoir ce que ça veut dire désmicardiser. Je pense qu'on va arriver à un système où des accords d'entreprise et des accords de branche vont pouvoir faciliter des dérogations au SMIC. Et en fait, quelque part, le fait d'obliger les détenteurs, les allocataires du RSA ou des allocations de chômage ou de l'allocation adulte handicapé et leurs conjoints. D'accord ? Ne vous dites pas « Ah ben oui, moi c'est ma compagne ou mon mari qui est au RSA, moi j'ai un travail. » Non, non, vous allez rentrer dans les fichiers de France Travail aussi parce que vous êtes conjoint de quelqu'un qui est allocataire du RSA ou de l'AAH. Donc, vous serez dans l'œil non pas de Moscou, mais de Paris, prêt à vous envoyer partout travailler pour mériter votre allocation. Donc je pense que c'est plutôt à ça, ce genre de choses-là, qu'il faut s'attendre quand on parle de désmicardiser. Donc en fait, il y a vraiment une urgence à organiser la lutte. Et en fait, moi, ce qui m'a fait... Et quand tu dis votre mission, en fait, moi, je n'ai pas de mission. Moi, j'ai pas de mission et la CNT n'a pas de mission non plus, en fait. On n'est pas... Moi, je prends ça un peu comme dans un sens quasi... dans mission, j'entends messie... C'est quasi religieux. Non, en fait, c'est pas ça du tout. C'est en fait... Ce sont des travailleurs et travailleuses qui mettent à disposition de leurs proches, travailleurs et travailleuses aussi, un outil pour pouvoir contrebalancer le rapport de force qui existe, le rapport de classe qui existe entre l'employeur et l'employé et entre l'État et la population. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi le côté que si on arrive à autogérer des outils de production, on peut très bien autogérer l'administration qui est aujourd'hui étatique. On n'est pas plus con que les autres, on peut très bien entretenir les routes et autres nous-mêmes, en décidant localement comment on s'y prend. Et en fait, le syndicat, ça sert aussi à ça, dans l'esprit de la CNT. Donc c'est défendre les conditions, les intérêts économiques et moraux des travailleurs, et là-dedans, on peut tout mettre. Donc, on n'a pas de mission. Et moi, je suis à la CNT que depuis 4 ans, tu vois. Et j'y suis rentré à l'époque des Gilets jaunes, parce qu'en fait, ce qui m'embêtait avec les Gilets jaunes, c'est qu'il y avait quand même un manque d'organisation qui était assez patent, quoi. Même s'il y a eu des tentatives, hein, on a quand même organisé des assemblées nationales avec 800 délégués, notamment à Saint-Nazaire. Bah, ouais, il faut le faire, quoi. Sans outil, quoi. Il a fallu créer l'outil sur le tas. Mais de fait, s'il existait un outil avant, ben les choses auraient été quand même beaucoup plus simples. Et donc, en fait, c'est inutile de rêver au grand soir, au changement, tatati, tatata, si en fait, on ne construit pas maintenant les outils qui nous permettent de gérer non seulement les conflictualités d'aujourd'hui, mais la société de demain. Et c'est un peu l'idée. C'est même l'idée principale de l'anarcho-syndicalisme.
Donc ça rejoint un peu ma question par rapport à l'anticipation aussi.
C'est une anticipation, ouais, tout à fait, t'as raison, c'est une anticipation aussi. Mais c'est aussi défendre aujourd'hui, maintenant, les travailleurs qui ont des problèmes.
Juste un petit entracte comme ça. Pourquoi ce chat, toute griffe dehors, en train de feuler pour vous représenter?
Eh bien ça, c'est la question qui tue, à laquelle je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas exactement d'où sort ce chat. Je sais qu'il y a des explications. Ça fait...
Un chat noir de surcroît.
Ouais. L'idée du chat noir, on la connaît, c'est un peu la même que celle du canard noir ou du mouton noir, ça dépend. Donc c'est un peu c'est la côté. C'est le côté de celui qui est en dehors des clous. Et je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose de... Le chat peut-être par opposition au chien, je ne sais pas, il n'y a pas de chat policier par exemple, je ne sais pas, j'aime les chiens aussi, hein, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Mais en tout cas, ça fait très longtemps que le chat est le...
Ça n'a rien à voir avec la ferme des animaux d'Orwell.
Je pense pas.
Vous voyez juste le chien, le cochon et les moutons.
Non, je crois pas qu'il faille chercher explication du côté des fermes. Je crois pas.
Est-ce que vous avez justement ces outils qui sont peut-être applicables ou qui puissent aider ces travailleurs du DIWA?
Déjà, la demande, c'est un peu la mienne aussi. Parce qu'en fait, moi, j'habite dans le DIWA. La plupart du temps, et même, je vois pas d'exception, je travaille dans le DIWA. Donc en fait, moi, ça me paraissait assez sensé dès le début qu'on puisse avoir aussi un syndicat dans le DIWA. Et pour en avoir parlé avec quelques personnes, il y a effectivement un intérêt à la chose. Parce que, juste comme je le disais tout à l'heure, on est vachement loin de Valence ou de Montélimar. Or, le centre de gravité de la CNT dans la Drôme, parce que c'est à partir de là qu'elle a été créée, c'est un peu Montélimar. Enfin, c'est Montélimar, le sud Drôme. C'est là qu'il y a le plus de militants de la CNT. Et au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, dans le DIWA, il y a des demandes, enfin des demandes, il y a des besoins.
Il y a un potentiel.
Il y a un potentiel de syndicalisation, mais il ne se fait pas. Parce qu'en fait, ça veut dire se taper des rues à Montélimar. Et en fait, dans le DIWA, on a quand même une forte perception des enjeux locaux. Et donc, il y a un truc qui est penser global, agir local. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est en fonction d'un système qui, lui, est global et qu'on doit lire, décoder, c'est agir localement. Et on a des spécificités dans le Diwa, que ce soit le travail saisonnier, par exemple, ou le travail agricole, qui sont particulières, quoi. On n'a pas ça dans toute la Drôme et on n'a pas ça dans toute la France. Et on a en plus une population qui arrive facilement à vivre en vase clos, qui est assez... c'est une sorte d'identité ouverte, quoi, en fait. C'est-à-dire, en fait, il suffit d'être depuis 2-3 ans dans le Diwa pour pouvoir dire, bah oui, moi, je suis Diwa. Donc, en fait, et ça, c'est une identité particulière qui est probablement due aussi à que c'est une zone de montagne, moyenne montagne, montagne. Donc, ça crée des... Bah, ça crée un rapport au monde qui est différent que si on prend les mêmes personnes et qu'on vient les implanter à Paris. Leur manière d'être au monde, elle va changer. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit avec Fab, c'est qu'en fait, ce serait bien d'avoir un outil qui puisse coller à cette particularité-là.
Les autres syndicats partisans, est-ce que vous avez des contacts avec eux, des échanges ?
Ça dépend des situations. Il y a des coins où les syndicats CNT sont pleinement dans l'intersyndicale et travaillent, alors chacun avec ses différences, hein, mais en tout cas ils arrivent à s'organiser pour des manifestations, des revendications et autres avec la CGT, la CFDT, Sud, Solidaire, voilà. Avec des représentants des 8 grandes confédérations nationales. Dans la Drôme, non, on n'en est pas là. La porte de l'intersyndicale nous est fermée. Ça changera, peut-être, j'espère. C'est d'ailleurs un de mes...
Et quelle est, à quoi est due cette fermeture ?
Ben, simplement, essentiellement, à des profils qui, au sein de la CGT et la CFDT, ne veulent pas nous avoir dans les pattes, parce qu'en fait, on est des emmerdeurs. Hein. Ça, c'est clair, quoi. Je ne sais pas, ils ont peur qu'on leur pique leurs adhérents, alors que nous, comme je disais tout à l'heure, hein, on ne cherche pas des adhérents, on ne vend pas des cartes. À la CNT, on milite, quoi. Donc on bosse.
D'autant que vous refusez les financements également,
oui.
Qu'ils peuvent prétendre, justement.
Et ça, c'est très gênant pour eux. Mais en fait, on pourrait avoir un travail d'intersyndical. Mais pour eux, la barrière, elle est pour le moment trop haute. Et ils n'ont pas envie, on peut pas les obliger. Hein, mais je t'assure qu'il y a des endroits où ça marche très très bien. Hein,
Est-ce que tu pourrais nous décrire l'activité qu'on pourra trouver de la CNT sur le Diwa ?
Bah, la première porte d'entrée, en général, soit ce sont des personnes qui ont déjà une vision du monde qui va coller avec ce que nous, on met en avant, qui va être intéressée par les modes d'action, par le fait de travailler en collectif, etc. Enfin, donc des gens qui sont déjà sensibilisés, quoi. Qui sont déjà militants probablement ailleurs. La deuxième porte d'entrée, c'est le problème ponctuel lié à un problème de non-respect du droit du travail ou du contrat de travail. Et à ce moment-là, la personne, elle va trouver une aide, parce qu'on a dans nos syndicats des conseillers du salarié qui peuvent accompagner en entretien préalable à licenciement des salariés. On a des défenseurs syndicaux qui peuvent, c'est une sorte d'avocat, qui peuvent monter des dossiers pour défendre des cas devant le Conseil des Prud'hommes. Et en fait, l'aide qu'on va leur apporter, elle va toujours être accompagnée d'une invitation à ne pas se faire servir, on n'est pas un syndicat de service, mais à prendre en main son dossier aussi. Et ça, pour nous, c'est la première étape de l'émancipation aussi. C'est à partir du moment où une personne est capable, avec l'aide d'autres, hein, c'est pas un travail individuel, de comprendre, pas de prendre en main son dossier, de s'intéresser au droit du travail, qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi est-ce qu'elle se retrouve dans cette situation-là, etc., etc. Et puis de se rendre compte qu'elle peut apporter quelque chose aux autres aussi, en s'étant comme ça auto-formée. Et en fait, c'est une sorte aussi de marchepied vers une attitude qui n'est pas, qui est le contraire du libéralisme où tout s'achète. C'est non, en fait, on s'organise ensemble pour régler nos problèmes. Et ensuite, étape suivante, on essaye d'inverser le rapport de force, un peu comme ça s'est produit avec la création de la sécurité sociale au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, il faudrait que j'en dise un mot, parce que c'est une histoire complètement complètement dingue. Hein, la sécurité sociale telle qu'on l'a en France et telle qu'elle est attaquée depuis 1949, c'est la sociale. C'est une auto-organisation des travailleurs. Ce sont les cotisants qui vont définir les besoins des malades, avec eux, des handicapés, des chômeurs, et savoir quel taux d'indemnisation, etc. Et en fait, pour l'État, c'était insupportable, ça. Pour les patrons, c'était insupportable. Parce que la Sécu, c'est un budget qui est déjà, immédiatement après-guerre, 2 à 3 fois supérieur au budget de l'État. Donc, toutes ces politiques professionnelles issues de la notabilité en général, la plupart du temps, toujours, qui voient une bande de gueux autogérer un budget 3 fois supérieur au leur, mais ça, c'était inadmissible. Donc, la sécurité sociale a été instituée sur des bases qu'on appelle sociales, et puis ensuite, ce qu'on appelle aujourd'hui l'État social, c'est lui constitué pour remettre la main dessus. Et en fait, nous, comme syndicalistes révolutionnaires, on s'oppose à la prise en main de l'État social, de ce qui est notre sécurité sociale. Et c'est comme ça qu'elle a été conçue. Donc en fait, il y a l'État social et la sociale. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la sociale, elle n'existe plus. Elle a été démantelée. Par exemple, là, j'ai donné un seul exemple, mais l'assurance chômage. Aujourd'hui, votre taux d'indemnisation au chômage et les durées ne sont plus définis par les travailleurs, mais par l'administration qui, en fait, a fait main basse sur les cotisations et qui budgète ça dans le budget de l'État pour dire on va donner autant aux chômeurs. Et du coup, à force de réduire l'enveloppe, on réduit les durées d'indemnisation, on réduit les montants d'indemnisation, on réduit les motifs d'indemnisation. Par exemple, avant la démission, il y a quelques années d'ici, quelqu'un qui démissionne, il touchait ses allocations chômage. Aujourd'hui, vous démissionnez, c'est fini. Pas de chômage à la sortie. Donc, le droit des travailleurs, il est fortement restreint. Et sur les 80 dernières années, on n'a fait que perdre des droits. Alors, il y a des droits à la formation qui ont été un petit peu... Là, résultat aujourd'hui, même ces droits qui avaient légèrement monté parce qu'ils n'existaient pas trop dans la conception des années 30-40... C'est venu plus tard. Aujourd'hui, pour pouvoir activer votre compte formation, pour lequel vous avez cotisé, je rappelle, il va falloir mettre la main à la poche perso à 10%. Donc, tu veux faire une formation, je n'ai pas de plombier, 4000 euros, hein, parce qu'en plus, elles sont hors de prix, ces formations, parce que tout a marché libéral de ça, ça te coûtera 400 balles, même si tu as un compte de formation qui est plein.
Je reviens sur la déclinaison du CNT, de la CNT sur le territoire du Diwa. Comment va-t-elle s'articuler, se conjuguer avec l'existant ?
Alors là, ce sera comme l'Assemblée générale le décide. C'est-à-dire que moi, j'ai pas la prétention à avoir les
clés. Une Assemblée générale au niveau national ?
Non,
au niveau local.
Au niveau local, c'est-à-dire les adhérents et les adhérentes. C'est eux qui décident de la politique du syndicat.
Une date prochaine, d'ailleurs, de cette Assemblée générale
prévue ? La première, elle aura officiellement lieu quand la labellisation sera effective.
À partir de juin, j'espère.
Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas se voir avant pour déjà faire des trucs. Hein. Comme je disais, un syndicat, il n'est pas obligé d'être inscrit dans une confédération. La confédération, en fond, c'est un outil de mutualisation des syndicats. C'est juste ça, ça permet de donner de la puissance aux syndicats et aussi des outils de formation, etc. Un environnement, environnement qui permet de faire mieux son taf de syndicaliste, quoi. Voilà, mais en gros, c'est pas une obligation. Donc, par contre, c'est bien l'AG du syndicat qui décide sur quoi elle veut agir, comment. C'est pas moi, hein. C'est ni moi ni la CNT, ça c'est certain.
Alors l'action nécessite avant tout une écoute de la résolution de problèmes. Est-ce qu'il y a des problèmes qui sont énoncés par une population ou des travailleurs sur le Diwa et qui vous guident sur les prochaines actions ?
Alors pas du tout. C'est-à-dire, moi, j'habite dans le Diwa, donc les problèmes, je les vois. Je vois qu'il y a des problèmes de logement, je vois qu'il y a des problèmes d'accueil des saisonniers. Ça, je le vois. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin d'être syndicaliste pour voir ça. Donc, si les adhérents, les adhérentes s'emparent de ce problème-là, ben, moi y compris, hein, eh ben, on tentera de peser sur ces questions-là. Mais si c'est autre chose, ce sera autre chose aussi. Hein, c'est... Il faut vraiment comprendre que c'est que le syndicat, c'est une espèce de... C'est un groupement d'individus qui décident de bosser ensemble. C'est ça, un syndicat, en fait. C'est un regroupement. Par exemple, tu as des syndics de propriétaires. Est-ce qu'on fait la façade en bleu? Est-ce qu'on refait la toiture? Voilà. Alors, je n'ai pas sympathie particulière pour les syndics de propriétaires, mais en fait, on ne peut pas préjuger de ce que va faire le syndicat. Et on ne peut pas préjuger de ce que va faire le syndic. C'est exactement pareil. C'est à partir du moment où... C'est vraiment de la propagande par le fait. C'est de l'action directe. En fait, le syndicat finit par définir sa ligne au cours des actions qu'il mène. C'est en se retournant sur ce qu'il a fait qu'il peut dire, voilà, on est quand même on est plus ou moins dans cette ligne-là. Mais partant de zéro, on ne sait pas ce qu'on va faire. On va faire de la défense syndicale, ça c'est sûr. Oui, bon, mon patron, ceci, j'ai un problème là-bas. Et après, comment est-ce qu'on va résoudre ça? Eh ben, en fait, ça dépendra, parce que dans le DIWA, on se connaît quand même beaucoup. Donc, forcément, moi, je connais des patrons. Donc, en fait, le niveau de dialogue et de conflictualité, il n'est pas fixé. Tu vois? On peut discuter aussi. C'est pas interdit. Surtout avec des gens qu'on connaît.
Pour joindre la CNT, comment faire?
Alors, on va tenir une réunion d'information à l'espace social du DIWA, l'espace social et culturel du DIWA, le 9 mars. Ouverture des portes à 16h, on va dire qu'on commencera à 16h30, à peu près. C'est quand même bien d'arriver un peu avant. Mais bon, c'est moi qui me dis qu'il y aura bien un battement de au moins un quart d'heure, 20 minutes avant de commencer pour de bon. Où je vais un peu représenter ce que j'ai dit là, mais aussi éventuellement répondre à des questions, à voir un peu... parce que je pense qu'il faut aussi parfois expliquer c'est quoi le syndicalisme, parce que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu. Je peux dire un mot là-dessus d'ailleurs aussi. Et jusqu'à 18h30, voilà. Mais ce n'est pas une assemblée générale, c'est une réunion d'information. Et ensuite, je pense qu'il y a des gens qui vont manifester le désir de rejoindre l'EDPIX CCD 26. Et à ce moment-là, bon, on pourra commencer à bosser sur des problématiques locales ou sur des enjeux globaux ou sur des cas concrets d'individus qui ont des problèmes. Et en même temps, faire de la formation, de l'auto-formation, notamment en droit du travail. Hein, c'est un peu la base, hein, ça reste quand même la base, hein, le droit du travail, quoi.
Et puis, vous avez une adresse mail hein, pour pouvoir vous écrire.
Alors, pour le moment, on a une adresse mail qui est provisoire, qui est etpix, E-T-P-I-C-S, trait d'union, tiré du 6, ccd26, @riseup.net. Mais quand on sera labellisé à la Confédération, on aura une adresse dont le domaine sera @cnt-6f.org. Donc là, pour le moment, l'adresse est provisoire, publiera la nouvelle adresse en cntf.org.
Le temps passant vite. Seb, je vais devoir te dire au revoir pour ce passage de la CNT sur RDIWA,
ouais.
Avec donc cette annonce d'assemblée organisée le 9 mars à l'ESCDD.
À la salle communautaire.
Pour qui veut.
Voilà, pour les travailleurs, hein, c'est pas la peine de venir si vous avez 4 ouvriers employés, c'est pas votre place. Quoi.
Seb, je te souhaite une bonne soirée.
Bah, à toi aussi, merci bien.
Au revoir.
Et à la prochaine.
Oui.
Salut.
Éclate offensive qui est tirée par les gendarmes. Et là, on entend un gendarme dire « Il est décédé, le mec. Là, c'est vachement grave. Il ne faut pas qu'il le sache. Il ne faut pas qu'il le sache. Il ne faut pas qu'il le sache. »